Vous écoutez RTL. RTL Matin.
Laissez-vous tenter.
Avec Yves Calvi.
À n'en pas douter, il y aura du monde devant la télévision ce soir sur TF1 pour le retour de Koh-Lanta, une 19e saison marquée par des nouveautés que nous présentera Isabelle Morini-Bosque. Et puis sur France 2, pour la 31e cérémonie des Victoires de la Musique, les artistes en lice se sont confiés à Steven Bellery. On les écoute dans un instant et on vous offrira au 32-10 les albums de Yael Naïm, de Vianney et des Innocents, tous les trois en compétition. Voilà, vous venez d'entendre la voix de Steven Bellery muni d'une ravissante chemise en Vichy rose et blanc.
C'était plus qu'une nappe.
Ben voilà, on prend connaissance de nos express du jour. Vous me perturbez avec Charlotte Arrigoni et puis Monique Younes qui arrive en retard comme d'habitude. Nous emmènera au centre Pompidou de Metz. Asseyez-vous et taisez-vous pour visiter l'exposition Sublime, les tremblements du monde, dans laquelle on peut admirer des œuvres inspirées des dérèglements de la planète.
RTL Matin,
laissez-vous tenter.
Évidemment, musique pour commencer, c'est la première cérémonie de l'année. Les 31e Victoires de la Musique, c'est ce soir à 20h55, en direct sur France 2. Steven Bellery, bonjour.
Bonjour Yves, bonjour à tous.
On va jouer au petit jeu des pronostics.
Hein. Oui, 12 catégories, 3 nommés à chaque fois, excepté pour la chanson originale où ils sont 4. Pas de grands favoris cette année, mais 6 artistes cumulent 2 nominations. On commence par les dames, évidemment. Artistes féminines sont nommées Zaz, Véronique Sanson et Yael Naïm. Alors j'adore la voix de Zaz. Véronique Sanson a fait l'unanimité avec sa tournée dédiée à ses années américaines, mais je parie sur Yael Naïm. Son 4e album Holder était l'un des temps forts de l'année 2015. Chez les garçons, pour la victoire de l'artiste masculin Dominique A, Kenji, Girac et Vianney sont en compétition. Alors le premier a déjà été récompensé il y a 3 ans. Kenji, énorme succès populaire, mais je vote Vianney. Son disque Idée Blanche est un petit bijou. On passe aux révélations de l'année. À présent, la musique de Jeanne Haddad reste encore confidentielle. Les patentes Jane pourraient créer la surprise, mais à mon sens, il n'y a pas de débat. Avec 900 000 albums vendus, la révélation s'appelle Louane. Elle pourrait repartir avec 2 prix. Elle est aussi nommée pour la chanson de l'année.
C'est complètement la cerise sur le gâteau d'une année magnifique. Je suis très très contente d'être là et c'est un peu comme pour les Césars. Pour moi, ce serait juste une ouverture, si ce n'est une acceptation dans le monde de la musique, quoi.
Là, s'il y a une des 2 victoires qui vous plaît le plus, qui vous fait le plus envie, c'est laquelle ?
Ah, je pense que ce serait Révélation. Vraiment, je sais pas vraiment pourquoi, mais je pense que ce serait Révélation.
Avenir de Louane, qu'on retrouve donc dans la catégorie chanson originale. Elle devra battre Maître Gims avec Sapé comme jamais. Il va venir avec 50 danseurs sur scène, ça va être énorme. Nekfeu et son titre On verra et Johnny Hallyday avec le morceau De l'amour. Johnny nommé 2 fois. Je pense moi qu'il a plus de chances de remporter le prix de l'album de chanson.
De l'amour.
Johnny Hallyday sera opposé à Yael Naïm et le duo Frérot de la Vega pour ce prix de l'album de chanson.
Alors on passe aux catégories, comment dirais-je, plus pointues, Steven.
Oui, au rayon musique du monde, je craque pour Indizara. Musique urbaine, je préfère Nekfeu, plus subtil que Youssoupha et Booba. Et côté album rock sur le ring, Loudoyon, Rover et Les Innocents, sans hésitation, je choisis le duo des Innos. Leur album Mandarine est un délice, écoutez Jean-Cri Urbain et JP Nataf.
Cette nomination dans la catégorie album rock, c'est assez cocasse. Donc j'imagine que les vrais fans de rock de Vince Taylor et de Gene Vincent vont un peu grincer des dents, mais non, ça fait vraiment plaisir tout à coup de nous ressortir de notre mal à vieux souvenirs.
Je crois que ça me fait plus plaisir que ça ne me l'a fait dans le passé, parce que on avait plus le plaisir de se dire ah tiens, mais attends, waouh, on est quand même au Victoire de la Musique.
Est-ce que ça vous encourage à continuer à faire des chansons tous les deux ensemble?
Oui, ça fait partie des choses qui font qu'on se dit bah quand même, on n'est pas rien. Mais
c'est un peu comme l'extra balle au flipper dans le temps, donc tout ce qui amène un peu d'eau à ce moulin là, c'est super.
Et quand j'ai pu...
Dernière catégorie de genre, la musique électro. Saint-Germain, The Shoes et The Avener se disputent la victoire. Pour moi, c'est le DJ niçois de 29 ans, déjà 2 tubes et 120 000 albums vendus. J'ai rencontré hier The Avener alias Tristan Cazara.
Je suis très honoré de pouvoir être nommé dans cette catégorie. Il n'y a pas vraiment de mots. Ça a été tellement vite, toute cette histoire, que en fait, j'ai du mal à réaliser. Alors quand on me dit, bah, tu es nommé aux Victoires de la Musique, j'étais en vacances il y a quelques jours de ça encore, et j'ai fait 15 000 km pour rejoindre expressément Paris et être nommé dans une émission de variété, de populaire, encore une fois dans le sens positif du terme, mais c'est pour moi un vrai honneur.
Alors on n'oublie pas le live spectacle de l'année, ça va se jouer entre la jolie tournée de la famille Chédid et Christine and the Queens. La chanteuse également citée pour le prix du clip de l'année avec le titre Christine, en compétition avec le sublime Cancé de Stromae, deux vidéos chorégraphiées par les patentes Marion Motin, dont on avait parlé évidemment dans LVT.
Un petit mot des oubliés de la soirée, Steven.
Oui, 400 000 copies écoulées, un grand disque et pas une citation pour Francis Cabrel, incompréhensible. Idem pour Marina Kaye, ok, elle chante en anglais, mais ça reste une révélation. Où sont passés Isia, Zazie ou le duo IBI, des albums qu'on a aimés ici et qui ont été ignorés par le collège des 600 votants.
Alors, côté télévision, à quoi va ressembler la soirée, Steven?
24 lives, fin prévu, minuit, j'y crois pas une seconde. Il y aura 3 espaces scéniques, l'orchestre sera dans la fosse, tout devant. La soirée s'ouvrira par un hommage à Michel Delpech, interprété par Vianney.
L'ouverture, ce sera le titre de Delpech, Quand j'étais chanteur. Après qu'il nous ait quittés, il y a peu de temps, c'est assez joli de commencer ses victoires, de les ouvrir avec une de ses chansons que moi j'affectionne particulièrement puisque j'ai le droit de la choisir. Michel Delpech a beaucoup compté dans mon éducation musicale. Il y a un truc très fort, un talent d'arriver à faire des chansons populaires avec des structures, des compositions, d'une richesse absolue, quoi. J'ai fait ma version, ils m'ont laissé faire ma version, donc j'ai simplifié beaucoup de choses. Je l'ai vianisé, ouais.
J'avais une vie dingue.
Autre tableau qui s'annonce émouvant, William Scheller recevra une victoire d'honneur et il chantera ce titre de 1991.
Mais si ça ne vaut pas la peine que j'y revienne, il faut me le dire au fond des yeux. Quel que soit le temps que ça prenne, quel que soit l'enjeu, je veux être un homme heureux.
Une anecdote pour finir, Johnny Hallyday est en concert ce soir à Périgueux. Oui. En sortant de scène, il va donc prendre un jet privé pour arriver vers 23h30 au Zénith de Paris.
Et à la présentation, à nouveau Virginie Guillaume.
Alors oui, l'animatrice rempile, mais elle sera épaulée par l'ami Bruno Guillon. Les victoires l'avaient caché en coulisses en 2014. Cette fois, il sera sur scène.
C'est un peu comme quand on fait un voyage et qu'on est en classe économique et puis au dernier moment, on vous dit « bah non, en fait, on va vous mettre en première classe ». Ça veut dire que je vais être co-animateur de cette soirée événement. C'est top parce que Virginie, c'est quelqu'un que j'aime beaucoup. Et puis, on sort d'une expérience assez forte au théâtre ensemble où elle jouait le rôle de ma femme dans la pièce qu'on avait fait sur France 2. Donc, on se connaît assez bien. Honnêtement, je pense que la co-animation va amener une certaine fluidité. Chaque artiste, avec le nouveau procédé qui a été mis en place l'année dernière, c'est un terme très technique, ça s'appelle le « mapping ». Pour essayer de vulgariser le truc, en fait, imaginez 3 terrains de tennis derrière les artistes qui sont des écrans. Ces écrans sont divisés en 25 parties et ça veut dire que les artistes peuvent utiliser et créer leur univers. Tous les artistes ont vraiment pris à cœur le fait de créer quelque chose qui corresponde à leur univers. Et sur le peu qu'on a vu hier sur les premières répétitions et sans dévoiler de secret, que ce soit Johnny Hallyday ou Yael Naïm, ça a été une gifle, mais extraordinaire.
Bah en tout cas, s'il y va avec toute la fanfare, notre Bruno de Fun Radio qui nous a amené dans le studio, je peux vous dire que ça va faire du bruit aux Victoires de la Musique.
Hein. C'est un très bon attelage avec Virginie Guillaume.
Je pense qu'il sera très drôle. C'est ce soir la 31e édition des Victoires de la Musique en direct du Zénith de Paris, 20h55 et puis jusqu'à bout.
Oh là là, oui, on ne sait pas encore. Compte rendu de la soirée, bien entendu, et les réactions des gagnants demain dans RTL Matin avec Bernard Poirette. Et puis, très joli cadeau ce matin. Nous vous faisons gagner 3 albums coup de cœur. Le disque de Yael Naïm, celui de Vianney, plus celui des Innocents. Pour cela, il faut répondre au 32-10 à la question que vous pose Steven.
Quel chanteur sera applaudi 2 fois ce soir à Périgueux à 21h, puis sur la scène du Zénith de Paris un petit peu avant minuit?
Oui, moi aussi, je sais. Merci, Steven Bellery. Les audiences télévisées de notre soirée d'hier, jeudi, avec vous Isabelle Morini-Bosque et Médiamétrie.
Eh bien, décidément, la section de recherche plaît toujours. 6 800 000 téléspectateurs, autant dire quasiment 7 millions étaient sur la une hier, 27% du public. Envoyé spécial, deuxième, alors là, beaucoup de chute. 2 600 000 téléspectateurs et 11% du public sur la 2. Alors après, on va être pudique, on oublie le reste. Alors côté TNT, c'est W9 avec la nuit au musée qui est largement en tête. 1 100 000 téléspectateurs. Mais je suis très contente parce que les l'épisode pilote de la série française d'anticipation Trépalium sur Arte a été vu par 900 000 personnes et c'est largement mérité.
Vladimir Cosma, Juliette Binoche, Bernard Pivot, Bruce Springsteen, Paul McCartney, tout ça c'est au menu des Express avec Mademoiselle Charlotte Arrigoni dans un instant.
RTL Matin.
Laissez-vous tenter.
Les Express LVT.
Bonjour Charlotte Arrigoni.
Bonjour Yves et bonjour à tous.
Vladimir Cosma part en tournée, c'est une première.
Oui, le chef d'orchestre a en fait choisi de fêter ses 50 ans de carrière sur scène, entouré d'un orchestre philharmonique, de grands chœurs et d'une jeune soprano lyrique. Il revisitera ses airs les plus connus. Comme La Boum, que l'on entend, mais aussi des œuvres totalement inédites. On le retrouvera dès le 29 septembre à Nantes, au Palais des Congrès de Paris le 9 octobre. Il y aura 10 dates au total, ouverture de la billetterie lundi prochain.
Juliette Binochel sera l'égérie de la cérémonie des Césars 2016.
En effet, la comédienne est mise à l'honneur sur l'affiche de la 41e édition. C'est une photo en noir et blanc. L'instant ne date pas d'hier puisqu'il a été immortalisé en 1996 sur le tournage du film Le Patient Anglais, qui vaudra d'ailleurs à Juliette Binoche l'Oscar de la meilleure actrice dans un second rôle. Cette affiche, vous pouvez d'ores et déjà la découvrir dans notre dossier César sur notre site rtl.fr. La cérémonie aura lieu le 26 février de 20h à minuit sur RTL en partenariat avec Canal+.
Bernard Pivot, bientôt de retour en librairie.
Oui, le 7 avril précisément, le texte du spectacle qu'il a créé au Théâtre du Rond-Point à Paris et qu'il continue de jouer régulièrement en région, Au secours, les mots m'ont mangé, sera publié aux éditions Alary. Le livre sera accompagné du DVD du spectacle. L'ancien présentateur d'Apostrophe y raconte les aventures cocasses d'un écrivain pris Goncourt qui finit grignoté par les mots.
Bernard Pivot viendra nous en parler. Dans Laissez-vous tenter, le 7 avril, ce sera le jour de la sortie de son livre et de son DVD. Bruce Springsteen, quant à lui, va sortir son autobiographie et elle sera disponible le 27 septembre.
Après 7 ans d'écriture, le boss, âgé de 66 ans, va sortir Born to Run, un livre dans lequel il va notamment raconter sa jeunesse, ses premières années de musicien et l'émergence de son groupe, le E Street Band. Cette autobiographie sortira simultanément dans 14 pays, dont la France, bien sûr.
Et pour conclure ces express, Charlotte, signalons que Paul McCartney a décidé de faire de la musique autrement.
On pourrait croire à un poisson d'avril, mais il n'en est rien. Après avoir signé la musique d'un jeu vidéo, l'ancien Beatles compose en ce moment des sons très brefs pour Skype. Vous savez, le logiciel qui permet de discuter avec ses proches gratuitement à travers le monde. Ils accompagneront en fait les petits smileys et ça donne ça. Ça, c'est Paul McCartney. Plusieurs de ses compositions seront dévoilées dimanche.
Les accords plaqués, c'est vraiment du McCartney.
Il avait expliqué sur RTL l'année dernière qu'il avait besoin de ces petites choses rigolotes, inédites, pour continuer à faire de la musique, ça l'amuse.
Merci Charlotte, c'était les Express de Laissez-vous tenter. Vous aurez peut-être reconnu le générique de Koh-Lanta. Donc retour à la télévision pour le démarrage ce soir sur TF1 de la nouvelle saison qui revient en Thaïlande où avait eu lieu la première en 2001.
Exactement. Et si Denis Brognard a découvert là ce pays cette année, c'est parce que la première saison de Koh-Lanta n'était pas présentée par lui, mais par...
Je me souviens plus.
Personne ne voit, par Hubert Auriol.
Qui c'est ça?
Eh ben, vous n'aurez pas de totem d'immunité. Qui c'est ça? Vous n'aurez pas de totem d'immunité. Donc, on va effectivement entendre ça ce soir, pour plusieurs semaines. Alors, la précédente saison de Koh-Lanta avait
ça crispe un peu.
Oui, je suis d'accord. Avait bien fonctionné en audience, séduisant 40% des femmes et près de 50% des jeunes. Petite baisse néanmoins due à une diffusion tardive, puisque la finale était en juillet. Mm-hmm. J'ai d'abord demandé à Denis Brognard de définir ce 19e Koh-Lanta en trois mots.
Innovante, dépaysante, surprenante.
Vous m'avez déjà dit ça l'année dernière.
Parce que c'est vrai, chaque année, on essaye justement d'innover. Cette année, avec l'arrivée de l'île au collier, qui va bouleverser complètement l'aventure. Là, il y a un troisième lieu de vie. C'est l'île au collier. Et à chaque épisode, vous aurez deux aventuriers sur cette île au collier. Un jaune, choisi par les rouges. Un rouge, choisi par les jaunes. L'objectif, c'est de trouver au moins un collier d'immunité individuelle qui vous permettra d'éviter potentiellement une élimination. Et ça va surprendre les candidats. Et quand les candidats sont surpris, le téléspectateur l'est d'autant plus ensuite devant son canapé.
Mm-hmm. Alors, j'ai beaucoup aimé le premier épisode, plusieurs nouveautés, mais j'ai eu le sentiment, sans en faire tout un plat, que ces îles offraient cette fois plus de nourriture, non ?
Non, il n'y a pas plus. Il y a ces plantes qu'on trouve dans ces zones tropicales. Il y a du manioc, du gingembre. Mais l'objectif quand même de la première épreuve, c'est de gagner le riz. L'équipe qui n'a pas de riz sur cette épreuve n'en aura pas. Donc non, on essaye de gérer la nourriture comme on le fait chaque année avec des îles qui ne regorgent pas de nourriture mais peuvent permettre à ces aventuriers de survivre le plus correctement possible.
Oui, un mot, une observation ?
Non, je sens que la prochaine question va m'intéresser. Allez-y.
Oui, alors, ne passons pas aussi vite sur ce gingembre aphrodisiaque. Il est passé très vite dessus, si j'ose dire. Une candidate avait peur des effets sur la libido des hommes.
Je me pose la question depuis des années. C'est que se passe-t-il vraiment à Koh-Lanta, derrière les cocotiers ?
C'est surtout de la sexualité dont on va parler.
J'entends bien.
C'est vrai que c'est rigolo cette année. Pour la première fois, on trouve du gingembre. On connaît les vertus aphrodisiaques du gingembre. Donc, quand cette candidate dit attention, on va essayer de le planquer au garçon, c'est rigolo. C'est ça aussi la tonalité de ce Koh-Lanta, c'est qu'il y a beaucoup d'humour. Mais pour revenir à la sexualité, comme d'habitude, quand vous ne mangez pas et quand vous avez une hygiène très très limitée, bah forcément cette sexualité diminue très vite. Donc, s'il devait y avoir de la libido sur Koh-Lanta, il faudrait tabler ça sur la première journée. Et ils ont d'autres choses à faire que de penser à draguer ou de penser à avoir une éventuelle relation sexuelle avec un aventurier ou une aventurière.
Je suppose qu'il y a quand même le quota de grande gueule.
Oui, mais alors, beaucoup de candidats forts, mais également attachants. La femme militaire de 26 ans, le menuisier ronfleur, la maître nageuse hyperactive, la vice-championne du monde d'escrime, le policier belge, etc., etc. Le petit échantillon.
Je pète les plombs facilement. En revanche, quand je donne ma parole, mais c'est à la mort. Pour moi, c'est une méthode de voyou, c'est plus du jeu.
Il faut toujours...
Alors, Charlotte s'interrogeait sur l'épilation. Ils font souvent des épilations définitives avant de partir.
Oui, c'est
mais c'est surtout les problèmes d'hygiène, buccale notamment. Et il n'y a vraiment pas de triche, Denis ?
Alors, l'hygiène buccale, il se débrouille. Évidemment, pas de brosse à dents, pas de dentifrice. Il y en a qui font ça avec du sable, il y en a qui font ça avec des petits bouts de bâton, il y en a qui font ça avec de l'eau salée, avec de l'eau de mer, avec n'importe quoi, il se débrouille.
Eh bien, la bouche lavée à l'eau de mer, c'est effectivement, ça décourage le baiser. En conclusion, épisode...
C'est le bicarbonate, quoi.
Mais ils n'ont pas le droit. Sauf s'ils sont malades.
La mer est salée, vous en souvenez.
Ah oui, pardon. Ah bon, pardon. En conclusion, épisode prometteur. Difficile de terminer sans évoquer la sécurité parce que il vaut mieux prévenir que guérir.
C'est un copier-coller de la saison passée avec un dispositif médical extrêmement poussé en amont lorsque les candidats passent leur visite médicale avec échographie cardiaque. Un examen plus poussé pour les candidats de Koh-Lanta que pour la plupart des sportifs professionnels. C'est une visite médicale qui a lieu à l'INSEP, l'endroit justement où sont regroupés les sportifs de haut niveau à Paris. Et puis ensuite sur place, c'est simple, nous avons 3 médecins pour gérer tout le domaine sanitaire, plus sur chaque campement, H24, vous avez un infirmier urgentiste prêt à intervenir, prêt à relayer les informations au médecin qui, lui, en moins de temps qu'il faut pour le dire, arriverait sur place en cas de besoin.
Alors, puisque définitivement l'hygiène interpelle mes camarades, les cheveux, ils se les lavent avec de l'eau de mer, et puis très vite, ils se les lavent plus, le dire. Voilà. Donc, la suite ce soir. Et Denis Brognard a 12 000 t-shirts dont il change toute la journée, parce que la sudation est évidemment très importante. Alors, ma phrase préférée de tout l'épisode, c'est « Je ne suis pas venu à Koh-Lanta pour acheter du terrain, moi ». J'adore cette phrase.
Écoutez, on va y méditer, puis dans quelques instants, on va partir à Metz, si vous le voulez bien, avec Monique Younes. Alors là, c'est un autre univers, je peux vous le dire.
RTL Matin,
laissez-vous tenter,
avec Yves Calvi.
Merci d'écouter RTL, première radio de France. Monique Younes, bonjour.
Bonjour.
Vous revenez du centre Pompidou à Metz, où a lieu l'exposition Sublime, les tremblements du monde. Depuis quand les catastrophes sont sublimes ?
Depuis que le philosophe irlandais, Edmund Burke, a utilisé, en 1757 précisément, il a utilisé la notion de sublime pour exprimer ce mélange d'attraction et d'effroi que l'on éprouve face au déchaînement de la nature. Et c'est précisément ce sentiment de délicieuse horreur qu'a ressenti la commissaire de l'exposition Hélène Guénin en regardant les images du tsunami qui a frappé le Japon en 2011. Et l'idée lui est alors venue de s'intéresser à la manière dont les artistes ont représenté les catastrophes depuis le XVIIIe siècle à nos jours. Vous savez peut-être que Turner se fait attacher en 1840 sur le mât d'un bateau en pleine tempête pour ressentir au mieux les effets de la tempête et pouvoir les peindre, sublimant ainsi la tempête de neige. Et plus proche de nous, en 2011, l'artiste français Adrien Missika a voulu filmer ce qui semble être le cœur d'un volcan, mais qui en réalité est un site façonné par l'homme, comme nous l'apprend Hélène Guénin.
C'est dans le désert du Turkménistan. Des géologues soviétiques, au début des années 70, ont foré à cet endroit pour trouver du gaz. Et ils en ont trouvé au-delà de leurs espérances, dans des proportions telles que, craignant le danger et une explosion, ils ont mis le feu à cette source de gaz pour l'éteindre. Et ça fait en fait 40 ans que ça brûle à ciel ouvert de manière permanente. Et les Turkmènes ont appelé cet espace la bouche de l'enfer.
Et les photos sont saisissantes. Le film est saisissant.
Alors Monique, le regard des artistes a-t-il évolué face aux catastrophes?
Un peu. Vous savez, au XVIIIe siècle, les artistes contemplaient les catastrophes réalisant des œuvres spectaculaires, souvent religieuses, représentaient l'Apocalypse, par exemple, la fin du monde, était un des sujets préférés des peintres de cette époque. Mais dès le XIXe siècle, grâce ou à cause de la révolution industrielle, les artistes ne se contentent plus d'être spectateurs de la nature, ils prennent conscience de l'impact de l'homme sur son environnement. Et les années 60 marquent évidemment l'apogée de cette prise de conscience. Hélène Guenel le montre à Metz.
C'est vrai que ce qui était déstabilisant et vertigineux, c'est de s'apercevoir que certains sujets très discutés dans l'écologie politique étaient déjà soulignés dans les années 60-70 et qu'on est dans cette répétition des choses. J'avais envie, à travers l'exposition, d'avoir une fin avec des propositions alternatives d'artistes qui, très clairement, se situent dans des formes d'activisme, dans des gestes poétiques qui renouvellent notre regard sur le monde. Donc voilà, il y a des choses à faire, il y a des choses à inventer. Encore faut-il se donner l'imagination pour cela.
Et l'imagination des artistes, vous le verrez à Metz, est sans limite pour réenchanter le monde. Il faut faire le voyage au Centre Pompidou pour le constater. Vous serez par la même occasion, comme moi, frappé par les deux installations spectaculaires de Tadashi Kawamata. Mm-hmm. D'ailleurs, son nom se prononce plutôt comme ça.
Tadashi Kawamata, artiste japonais.
Voilà, Kawamata a donc réalisé deux vagues. Une vague verticale qui s'élève à 6 mètres de haut et l'autre horizontale qui s'étend sur 80 mètres de long sur 15 mètres de large. Cette vague spectaculaire est suspendue sur la totalité du plafond de la galerie 2, sublimissime.
Mais des vagues faites de quoi?
Écoutez, d'éléments de mobilier en bois récupérés à Metz. Il y a 20 tonnes de portes, de chaises, de canapés, de fenêtres, de paniers. Vous savez, lors du tsunami de 2011, Kawamata était en France et lui aussi a été horrifié, fasciné, frappé par les images de ces déchets déversés dans l'océan Pacifique par vagues gigantesques. Il était aussi très peiné par les 2000 personnes encore portées disparues.
J'ai imaginé que ces 2000 personnes transportées par la mer ont peut-être vu, avant de mourir, les derniers rayons de soleil à travers les vagues de déchets transportés par l'eau. Qu'ont-ils ressenti à ce moment-là ? Donc cette installation intitulée « Sous l'eau » est très symbolique pour moi. C'est une sorte de requiem pour les disparus des catastrophes naturelles, pas seulement celle du tsunami au Japon, mais partout dans le monde.
Et être sous cette vague imaginée par Tadashi Kawamata, qui pèse 20 tonnes, est à la fois sublime et terrifiant. Et elle illustre parfaitement le thème de l'exposition « Sublime, les tremblements du monde ». Ne la ratez pas, vous avez jusqu'en août pour l'admirer au Centre Pompidou-Metz.
Monsieur Kawamata, pourriez-vous répéter votre nom, s'il vous plaît?
Tadashi Kawamata, artiste japonais.
Sublime artiste japonais.
À retrouver au Centre Pompidou de Metz. Merci beaucoup Monique Younes. Si vous voulez gagner la compile qu'a préparée pour nous, oui, c'est votre compile, Steven. Trois CD. De Vianney, de Yanel Naïm et des Innocents. Il fallait répondre à une question au 32-10. On vous donne la réponse dans un instant.
RTL Matin. Laissez-vous tenter. Avec Yves Calvi.
Parlons peu. Parlons bien, quel chanteur sera applaudi deux fois ce soir, j'ai bien dit deux, à Périgueux à 21h, puis sur la scène du Zénith de Paris à 23h30.
Allez-y, mon ami. De l'amour, de
l'amour, de l'amour. Et si vous nous avez appelé au 3210, eh bien, vous avez gagné trois albums coup de cœur qui vous étaient offerts par Steven Bellery, celui de Yael Naïm, celui des Innocents et celui de Vianney, qui est votre chouchou pour ce soir.
J'ai aimé.
Oui.
Moi aussi.
Bon, très vous bien. Aussi, si tout le monde est pour Vianney, je vais
non,
vous
dire. Non, quel Gégéra, quel Louane. Non, mais Louane aussi, mais c'est pas la même catégorie.
Et vous êtes
non.
Pour qui
pour Vianney, moi. Et donc, ça s'aiguillerait tout ça. Hein ça va nous permettre tout simplement de retrouver Julien Courbet qui fête les 15 ans de l'émission. Ça peut vous arriver. Il a d'ailleurs eu la gentillesse de m'y inviter. Allez, direction le grand studio.